night, just had a fight. Talking never seems to make it feel alright. Guess I'll just keep going till I'm gone, alright. Wonder if you satisfy this appetite. Ride or die, no, not I. I never signed up for this shit, no, I. I'm getting bolder with this riff, so I. I'm getting closer to this cliff, so I.
Bonjour, vous écoutez le 7e numéro de What the F Podcast et c'est toujours Fania Noël. Bienvenue.
Basketteur Magic Johnson suscite des commentaires racistes.
Oui, cette photo, on va la voir. Ce sont les deux hommes en vacances en Italie avec à leurs pieds des sacs de shopping après leur passage dans des boutiques de luxe et de nombreux internautes qui ne les ont pas reconnus dénoncent des migrants africains qui profitent du système italien. Le tout renchéri de commentaires racistes, hein, c'est ce que rapporte La Repubblica. Plusieurs anonymes, également la mannequin italien Nina Moric qui postait sur son compte Facebook voir dans des lieux touristiques des immigrés qui s'installent sur nos bancs avec nos 35 euros, c'est vraiment trop. 35 euros, c'est référence faite à l'aide quotidienne allouée par l'État italien aux demandeurs d'asile et des internautes qui sont en fait tombés dans le panneau puisque c'est en fait une expérience menée par ce journaliste Luca Bottura qui a publié sur son compte Facebook cette photo avec un texte ironique évoquant les 35 euros en question et ce commentaire partagé si cela vous indigne. Alors cette photo truquée a été partagée plus de 2000 fois en 48 heures. Il a révélé le but de sa démarche, tout simplement dénoncer les préjugés anti migrants et le racisme. Et voici ces statistiques. 40% des personnes ont compris la provocation, 20% ont cru à un mème raciste et 30% se sont indignés en n'ayant pas vérifié la source.
Ce podcast a commencé avec le morceau Cortex Luxta de Aori et de Twani. Je vous conseille de l'écouter et de l'écouter en boucle parce que, pas parce que je suis subjectif et que Aori est une amie. Mais en fait, oui, et ça c'est une bonne raison, et parce qu'elle est super talentueuse et ce son il est super bien. Et ensuite c'était un extrait du journal de France 24 qui parlait de Samuel L. Jackson et de Magic Johnson lorsqu'ils étaient en Italie et le petit drama fasciste, raciste qu'il y a eu en utilisant une de ces photos, mais on va en parler un peu plus tard. Donc, dans ce numéro, on va parler de quoi ? De classe versus race. Est-ce que la classe efface la race ou est-ce que la race surplombe tout ? Voilà, il y a eu des débats enflammés et... enfin, plus qu'enflammés, des débats. Ils étaient très enflammés, mais avec très peu de contenu. Donc, des débats qui font feu de tout bois, je crois que c'est ça l'expression. Et ensuite, on va parler dans le What the F concept de Emotional Labor, qui est un concept qui est utilisé, très très utilisé. Donc on va parler de qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient et comment il est utilisé et souvent mal utilisé. Et je vais terminer avec mes vœux pour 2020. Je vais essayer de prendre une voix... Est-ce que je prends une voix là, Georges Pompidou ? Non, non, je vais être normal. Bon, attachez vos ceintures et vloup ! Ouch, je me suis fait mal. On commence. Alors, il y avait ce débat sur Twitter qui est parti d'un tweet, je pense, concernant des SDF blancs et qui est passé en mode... oui, de toute façon, si leur privilège blanc les protège pas, ils ont toujours leur privilège blanc. Et ensuite, de l'autre côté, les gauchistes, communistes, marxistes, madjigérés qui pensent que la race n'existe pas, sont en mode « Oh non, comment ça se fait qu'il y a des gens qui pensent que la race est plus importante que la classe, etc. etc. » Donc après, c'est allé d'arguments des plus fallacieux d'un côté comme de l'autre, mais plus d'un côté que de l'autre, et qui est le côté de la lutte des classes sinon rien. Et aussi, on voit que aussi il y avait le petit penchant libéral et très politique d'identité, mais aussi politique très inter-individuelle le privilège. J'ai déjà fait un podcast dessus. En finir avec les privilèges. Pourquoi cette notion, ben voilà, elle est utilisée comme ça dans des rapports très individualisants et pas sur la structure. Donc, on va partir de trois points qui sont importants. Le premier, qui est très très important, la race ne se vit pas isolée. Il n'y a personne qui est juste noir. Ça n'existe pas. La race se vit en fonction du genre, se vit en fonction de la classe, en fonction de l'orientation sexuelle, et même en fonction du genre, quand je dis en fonction du genre, en fonction de tous les genres possibles, même les personnes qui se définissent comme agenre, dans le système social, sont dans une catégorie de genre. C'est-à-dire que la non-conformité de genre est quand même une catégorie de genre, c'est-à-dire c'est une catégorie qui, le système, fait en sorte de discriminer les personnes en fonction de leur... si elles sont conformes ou elles sont non-conformité. Et après ça dépend où elles sont en transgression. Parce que la question de la conformité et non-conformité, elle peut être subjective et le système ne le voit pas et ça ne le dérange pas. Et après, il y a les questions de transgression et on voit les questions de transgression qui sont extrêmement punies. C'est ce qu'on voit pour les personnes trans qui où le système et toute la société les punit de cette transgression de genre. Donc la race ne se vit pas isolée. On n'est pas juste on n'est pas juste noir sans rien, juste noir et après il y a un prototype noir. Donc noir, même le noir masculin, c'est une position spécifique, le noir masculin pauvre, le noir féminin pauvre, le noir de classe moyenne, quoi, une femme, est-ce que t'es lesbienne, queer, etc. Donc tout, ce n'est pas tout seul. Donc ça ne peut pas être isolé, on ne peut prendre la catégorie, on peut prendre la catégorie de manière isolée que pour les principes, enfin pas pour le principe, mais juste pour utiliser une être utilisé dans l'utilité d'une démonstration scientifique, je veux dire sociologique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des études sociologiques, des études en sciences humaines, parfois on isole des catégories bien spécifiques pour montrer la prévalence ou des corrélations entre des caractéristiques. En France, on fait pas ça parce que les statistiques ethniques sont interdites, mais dans d'autres pays, on peut faire les noirs, et après on prend la catégorie noire, la catégorie arabe, on dit combien entrent à l'université, combien arrivent au niveau master, etc., ou sur l'hôpital, combien sont en prison, etc. Donc, on isole la catégorie race, où on englobe tout le monde, et ensuite, il y a des études qui fragmentent toutes les études, pas toutes, mais on va dire 80% des études, même si elles ne comportent que sur la race, pratiquement maintenant en 2019, mais depuis les années 80 et avec la montée des études sur la question féministe, etc., il y a toujours une sous-partie qui sépare le démographique étudié, la population étudiée, entre les femmes et les hommes, au moins pour montrer les différences en fonction du genre, parce que le genre, la race, le genre et la classe sont des catégories extrêmement structurantes pour comprendre des choses, et extrêmement structurantes dans le sens sociologique de comment ça impacte la vie des gens, mais pas la vie au niveau individuel, mais d'un groupe. C'est-à-dire qu'on peut voir des tendances et produire des théories sur un groupe, même s'il y aura des exceptions, parce que là on parle de sociologie, on ne parle pas de tout le monde, mais on parle de la grande majorité, sur un groupe, ben, alors on peut faire, donc sur un groupe donné, les femmes, les catégories raciales, les catégories de classe, sont des facteurs extrêmement structurants qui permettent de voir des grandes tendances sociologiques en matière de positionnement social, comment dans les systèmes éducatifs, de santé, de l'emploi, de la migration, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des statistiques sur pourquoi les femmes comment les femmes sont moins payées que les hommes, que les femmes que une femme sur trois au moins subit un viol. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la catégorie patriarcat, la catégorie femme impactée par patriarcat, comment ça structure la vie d'un individu du début à la fin, jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi elles meurent plus souvent seules, pourquoi elles sont abandonnées par leurs compagnons quand elles sont malades. Et sur la catégorie raciale, c'est la même chose. La prévalence des personnes pauvres, atteintes de maladies longue durée, qui sont migrantes, qui sont, voilà, la prévalence dans les couches les plus paupérisées et les plus fragiles de certaines catégories raciales, dans les logements insalubres, etc. C'est-à-dire, la prévalence, ça veut pas dire qu'elles sont la majorité, mais en rapport à leur nombre, elles sont surprésentées. Donc, la race ne se vit pas seule, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la race est un élément auquel on peut pas échapper. On peut pas y échapper. C'est-à-dire que ça, on peut avoir des mobilités de classe avec tout ce que ça veut dire, se sentir illégitime, etc. Mais la race, on ne peut pas y échapper. Ou on ne peut pas y échapper. Il y a vraiment très peu de, enfin, des cas très, 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 très minoritaires, pour de personnes qui échappent à la catégorie raciale. C'est ce que les Américains aux États-Unis appellent ça le white passing, des personnes qui sont nées de parents noirs très très clairs et qui sortent, qui ressemblent à des blancs, et qui après, s'ils déménagent, personne ne les connaît dans leur environnement, peuvent passer pour des blancs. Mais dans le contexte français, moi j'ai déjà dit, cette affaire de white passing, pour moi, ça, c'est nul. Parce qu'en fait, comme on a dit que la race, c'est pas biologique, c'est une construction sociale, et que, ben, moi, par exemple, je suis haïtienne, dans un territoire où, l'histoire des territoires fait que, ben, il y a des descendants et des mélanges qui se sont faits dans la violence pour la plupart, mais d'autres, qui fait qu'il y a un moment, on arrête tous, il y a un moment, ça peut arriver qu'on arrête d'être noir. Ça arrive. C'est-à-dire que cette affaire de faire comme Brad Pitt, j'ai un arrière-arrière-arrière-grand-père indien, etc. Non. Moi, sûrement, comme je suis haïtienne, peut-être j'ai des aïeux qui sont taïno ou ça, très probablement, qui sont blancs ou en partie blancs, mais je suis noire. Donc, il y a un moment qu'on a des enfants avec des personnes blanches, et que ces personnes ont des enfants aussi avec des personnes blanches qui ont des enfants avec des personnes blanches, il y a un moment, la personne, elle est blanche. Donc, cette affaire de white passing, là, voilà. Donc, après, il y a des gens qui ressemblent, mais qui ont, comme la race est une construction sociale, c'est leur patronyme. Et ça, c'est pas du white passing, parce qu'en fait, en vérité, entre un blanc du sud, un juif séfarade et un algérien, on les met à côté, ils se ressemblent. Donc, ce qui va changer, c'est quand ils vont dire le prénom et le nom, que directement, on peut rentrer on peut les rentrer dans des catégories raciales, et faire tout le travail que fait la suprématie blanche, de catégoriser les gens, de faire la différence entre quelqu'un qui peut s'appeler, je sais pas moi, Hassan, quelqu'un qui peut s'appeler Serge et son nom de famille, ça peut être Bensoussan, et quelqu'un qui peut s'appeler Pierre, et son nom de famille, c'est un nom francophone français, mais peut-être il doit avoir deux ou trois grands-parents portugais. Donc, voilà pourquoi. Donc, mais ça, c'est vraiment extrêmement minoritaire, et je sais qu'il y a des gens qui aiment centrer le débat sur les gens, oui, je suis un white passing, etc. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est leur problème. Moi, personnellement, je le dis, hein, je veux pas me faire des amis. Hein. Cette affaire de white passing, ça, en contexte états-unien, ça se comprenait vu qu'il y avait des lois sur ça, etc. Mais en contexte français, non. C'est, voilà. Non, non, non. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas racialement ambigus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu les vois, tu ne sais pas s'ils sont noirs, s'ils sont arabes, s'ils sont descendants, s'ils sont, voilà, etc. Mais racialement ambigus, c'est quand même par rapport à... on voit que tu n'es pas blanc. Donc voilà, la race, c'est la catégorie... une catégorie à laquelle on ne peut pas échapper. Et comme on ne peut pas échapper, elle est extrêmement structurée et c'est la catégorie la plus... une des catégories les plus intimes. Et quand je dis une catégorie plus intime, avec ça, la race et le genre, c'est les deux catégories. À la naissance, il y a tout un système, le système raciste et le système patriarcal, qui vous est mis dessus. Et ensuite, après, c'est la bataille. C'est à partir du premier... Vous n'êtes même pas encore né, les gens ils font des plans sur vous. C'est-à-dire que les affaires, les gens ils font des plans sur vous. C'est-à-dire la façon même dans des pays comme les États-Unis et la France, on traite les femmes enceintes noires par rapport à leurs enfants, qu'on dit oh mais vous allez faire trop d'enfants, etc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore né, vous êtes déjà un objet politique de discussion au sein du groupe. Et pareil, quand vous êtes une femme, les gender parties, les machins, etc. Là. Donc, il y a plein de projections. Après, il y a d'autres catégories qui arrivent plus tard parce qu'elles arrivent en fonction de votre positionnement et aussi de la déclaration et autodéclaration sur l'orientation sexuelle, par exemple, parce que on calque l'hétérosexualité de base à tout le monde qui naît, mais c'est pas des questions qu'on va mettre directement interpréter, même si on est dans une société extrêmement hétérosexualisée dès plus petit, hein, t'as une copine machin etc. Mais c'est des catégories qui bénéficient de plus on rentre avant que le contact, la confrontation vienne, il y aura un peu plus de temps avant. Alors que les questions de race et de genre, mais la race et le genre, c'est vraiment les deux catégories extrêmement structurantes. Et la classe est une catégorie structurante parce qu'en fonction de où on est, ça dit beaucoup du parcours, des destins, etc. Ce sont des catégories structurantes, mais la classe, par contre, on peut y échapper. On y échappe difficilement, mais on peut quand même y échapper. On peut quand même y échapper. Et même le genre, parce que j'entends les gens dire oui, mais après, les personnes, les femmes trans, etc. Mais en fait, elles sortent pas du cadre patriarcal. C'est-à-dire que si les femmes trans sont beaucoup plus assassinées, violentées, et subissent autant que ça, c'est justement du fait qu'elles échappent pas au patriarcat. C'est-à-dire qu'elles échappent pas et qu'elles vivent avec le fait de est-ce que c'est su, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment une catégorie où on n'échappe pas à la violence, sauf si on est un homme cis hétérosexuel. Voilà. Si on échappe à la violence du patriarcat quand on est un homme cis hétérosexuel. À la violence du patriarcat. Parce qu'on peut être un homme cis hétérosexuel noir et on n'échappe pas à la violence du racisme, par exemple. Donc voilà. Donc la race est un élément extrêmement structurant, un des éléments les plus structurants, et surtout quand on est dans un contexte comme en France. Et parce que c'est un élément structurant au niveau individuel, personnel, pour même la structuration de qui on est, de comment on se voit, de nos rapports à soi-même, de son estime de soi, de tout. C'est quelque chose qui fait corps beaucoup plus, par exemple, que la classe et surtout l'appartenance de classe dans un contexte où, en France, depuis près de deux décennies maintenant, il y a tout un discours pour dire la lutte de classe est terminée, alors que la lutte des classes n'est pas terminée, mais que tout a été fait pour détruire les consciences de classe, à part celle de la classe bourgeoise et des gens qui votent pour Macron, en atomisant et aussi au fait comment le travail est organisé, que les gens ne sont pas dans des usines ensemble, etc., qui sont beaucoup dans les économies de services, souvent dans des petits contrats, donc il n'y a pas d'organisation Il y a des organisations de classe beaucoup moins fortes et elles sont de plus en plus en voie de disparition avec grâce au travail rudement mené par l'État et le capitalisme pour faire en sorte qu'elles disparaissent et avec ce discours, la lutte des classes est terminée, tout en renforçant les positions, les votes et les prises de position de classe, de la classe bourgeoise et catégorie supérieure qui représente l'électorat de Macron, les nouveaux libéraux. Donc quand on a vu le troisième point, c'est que la classe et le capitalisme, par exemple, je disais que la race était structure au niveau personnel, individuel et structurel sur tous les niveaux. Le capitalisme qui produit la classe est structurant, bien sûr, au niveau personnel, même si, beaucoup moins que la race pour des gens au moins qui sont racisés. Mais le capitalisme est extra-structurant et structurant pareil au niveau global, comme le racisme, est structurant au niveau global et des rapports d'exploitation. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un système qui est le capitalisme, qui structure les rapports d'exploitation entre les groupes d'individus, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires des moyens de production, et ceux qui vendent leur force de travail, ceux qui ne peuvent pas vendre leur force de travail, donc qui sont repoussés à la marge dans la précarité ou dans les économies criminalisées, au sein d'un même espace géographique, mais aussi structure les rapports entre les pays du Nord, les pays du centre du capitalisme, et les pays de la marge qui produisent de la force de travail encore moins chère que le prolétariat des pays du Nord, et des matières premières et appauvrissent les pays. Donc le capitalisme et l'exploitation capitaliste qui est extrêmement liée avec le racisme, etc., de qui est exploité, quel pays est traité comme une arrière-cour, etc. On peut voir avec Macron, l'éco, le franc CFA, etc. Donc c'est deux systèmes extrêmement liés, mais le capitalisme gère ces rapports d'exploitation avec un seul but, le profit, l'accumulation du profit. Mais ce n'est pas l'accumulation du profit, toutes choses égales par ailleurs, et il y a une règle dans cette accumulation de profit, et il y a plusieurs règles dans cette accumulation de profit, et parmi ces règles, il y a se dire que les pays où il y a des gens, plus un pays, il y a des gens qui ne sont pas blancs, plus il peut être exploité, et plus il peut être déstabilisé, plus on peut lui faire des guerres, lâcher des bombes, avoir tout un discours avec tous des discours de libération, mais d'autres discours qui soient homonationalistes, c'est-à-dire se servir des luttes LGBT pour aller faire la guerre, ou féminationalisme, servir des luttes féministes à des desseins impérialistes, des narratives de sauveurs, des narratives aussi non très chrétiennes, religieuses, de « oh mon Dieu, on va apporter Jésus pour les sauver ». Donc le capitalisme est extrêmement structurant dans nos rapports dans un même contexte, c'est-à-dire en France, en Occident, dans le Nord global et dans les rapports du Nord global avec le Sud global. Donc quand on a ces trois points, on arrive à ce qui peut faire une mauvaise digestion d'une sorte, je ne sais pas si c'est l'intersectionnalité, je ne sais pas, mais une mauvaise digestion des choses en disant que, ah oui, mais les blancs, SDF, machin, etc., ils n'ont pas utilisé leurs privilèges, etc. Et c'est ça le problème. C'est penser le concept de privilège, qui est un très très mauvais concept à mon avis, comme il est très individualisant, comme quelque chose que tu pouvais sortir et arriver et pas le voir dans un système. Si on est dans un système de classe et de lutte des classes et d'appauvrissement, il faut qu'il y ait des pauvres. Et tous les pauvres ne peuvent pas être déracisés. Donc, évidemment, il va y avoir des blancs pauvres et des blancs extrêmement pauvres pour plein de questions, pour des questions et de classe et de santé mentale aussi, parce que parmi les personnes SDF, il y a beaucoup de gens avec des problèmes de santé mentale qui ne sont pas pris en compte, donc pour plein de questions. Donc, vu que on est numérairement minoritaire, même si on est surreprésenté dans les catégories précarisées, du travail précaire, des couches prolétaires, ça ne veut pas dire que on forme la totalité des couches prolétaires. Et ça, c'est vraiment faire ce qu'on appelle la politique d'identité, ça veut dire baser les trucs de rapport individuel à rapport individuel. Donc, Bien sûr qu'il y a des blancs SDF et bien sûr qu'il y a des noirs SDF, mais ce qu'il faut voir, c'est en termes de structure, de conditions matérielles d'un groupe donné, voir comment la race et la classe s'articulent pour voir c'est quoi le pourcentage rapporté au fait qu'on soit minoritaire, par exemple, voir comment les Noirs représentent la vaste majorité des nouveaux emplois précaires de l'ubérisation, par exemple les chauffeurs, les cyclistes Deliveroo, Uber Eats, etc. Il y avait un très bon article dans Libération où on voyait des jeunes hommes blancs sortis d'école de commerce, de Sciences Po, etc. Dans leur start-up, de la Start-up Nation, et des lignes et des lignes et des lignes d'hommes noirs qui, pour la plupart, sont migrants, qui vont faire la livraison Uber, Uber Eats, Deliveroo et tout ça, ou aller remplir les limes, là, les trottinettes, etc. Donc, voir comment ça permet de voir comment est structurée l'exploitation en fonction de la question de la classe et de la race, et de bien comprendre que pour que le capitalisme marche, il a besoin du prolétariat. Il a besoin d'appauvrir et d'appauvrir de plus en plus. Et ça produit aussi ce qu'on appelle un capitalisme racial. C'est la corrélation de certaines professions avec certaines identités raciales. Par exemple, à Paris, on peut voir dans certains arrondissements, quasiment toutes les nounous d'enfants, on va dire, de moins de 6 ans, c'est des noirs. Dans d'autres arrondissements, les personnes qui vont faire la cuisine, etc., c'est plus des femmes arabes. Des arrondissements, par exemple le 16e, etc. Donc voilà. Les personnes qui font le ménage, par exemple, ou les gens qui nettoient les immeubles. Donc ce capitalisme racial est produit de ces deux systèmes qui marchent l'un avec l'autre. Donc oui, il existe des blancs pauvres, et effectivement il existe des noirs riches, mais ils ne font les noirs riches ne font pas ne peuvent pas échapper au fait qu'ils soient noirs, et bien sûr ils subissent du racisme, mais on peut pas dire toute chose égale par ailleurs, parce que le fait qu'ils soient riches leur permet d'échapper à certaines formes de racisme, c'est-à-dire que dans l'extrait qu'on a entendu là sur Samuel Lee Jackson et Magic Johnson, ils n'ont pas été pris pour des SDF. Ça, c'est ce que les gens aiment raconter, parce qu'ils ne vérifient pas leurs sources, et ça, c'est le truc de Twitter, c'est pas ce qu'ils ont été pris pour des SDF, c'est qu'il y a un journaliste italien qui a utilisé leurs photos pour faire un faux mème pour voir qu'est-ce que les gens, ils allaient le dire. Donc, on peut très bien dire que ce journaliste italien, en faisant son savior de machin, etc., en mode utiliser photos de deux noirs en se basant sur les présupposés que tous les noirs, parce que comme ils sont noirs, ils peuvent être renvoyés au statut de migrant. Donc ça, c'est la pensée raciste qui est derrière. Mais quand ils étaient en Italie, sur leur banc, avec leur sac de choses de luxe, les gens les prenaient pas pour des SDF. Les gens les prenaient en photo parce qu'ils avaient l'air d'Afro-Américains riches. Donc ça, c'est après... L'Internet a changé l'histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que le journaliste italien a fait ça en disant voilà pour être ironique, voilà ce que font les migrants avec les 35 euros journaliers. C'est les 35 euros, c'est l'allocation journalière de l'État italien aux personnes migrants. Voilà qu'ils font ça. Donc pour lui c'était le wokisme à son apogée, en utilisant des images de deux stars noires américaines, en les renvoyant à la pensée raciste qu'ils étaient migrants, etc. Et ensuite, ils s'en servent ça pour faire une enquête, d'après lui, pour voir que, en effet, il y avait 40% des gens qui ont reconnu, qui ont dit, non, c'est pas ça. 20% qui ont dit, mais ce que tu dis, c'est raciste. Donc, et le reste 30% qui fait beaucoup de bruit, qui a cru ce qui avait marqué et qui s'en est servi pour alimenter son discours raciste. Voilà. Donc, le fait d'être noir riche permet d'échapper ou de pouvoir publiciser certains trucs racistes qui arrivent Et ça, c'est le premier truc, c'est-à-dire qu'on n'échappe pas à tout le racisme, c'est-à-dire que non, ça, c'est pas possible. Même quand on est noir et riche, même quand on est Barack Obama, ben, on va subir quand même du racisme. Mais aussi, il ne faut pas oublier, ça met aussi des noirs riches dans des situations d'exploitation de personnes pauvres et de noirs pauvres. Donc, il y a la question des ennemis de classe et de dire que ça met des intérêts objectifs, leur intérêt subjectif de classe en tant que riche. Certaines fois, ils choisissent ces intérêts, comme Jay-Z, de catégorie riche, plutôt que les intérêts collectifs, on va dire, des Noirs. Et là, on peut voir la différence entre Copernic et Jay-Z. Sur certaines choses, par exemple. Voir ça aussi, donc, quand les gauchistes là disent « Oh non, la classe, après, plus que la race, c'est une façon d'évacuer le problème, alors que le problème, il est beaucoup plus complexe. » Et les blancs pauvres, effectivement, ils sont pauvres, donc ils sont exploités en tant que pauvres et subissent énormément de choses en tant que pauvres, et amener la question du privilège blanc, du machin, etc., dans un sens de capitalisme, ça n'a aucun sens. Le privilège blanc, c'est pas une carte magique pour passer de tout, etc. Si vous voulez utiliser le concept du privilège blanc, l'utiliser à deux situations égales, voilà ce qui va se passer. C'est ça, c'est à deux situations égales, ou face à certaines situations, voilà pourquoi quelqu'un peut s'en sortir avec une erreur et d'autres ne peuvent pas s'en sortir, ou peuvent avoir ce job et d'autres ne pas s'en sortir. Mais parler du privilégiement qu'on passe à de personnes qui sont littéralement au sol social mais matériel dehors, franchement, ça sert à absolument rien. Donc effectivement, ils sont pauvres, mais effectivement, ils sont blancs. Et c'est parce qu'ils sont blancs que leur situation peut être exploitée et servir de narrative à la droite, l'extrême droite, sur « Ah oui, on donne de l'argent aux migrants, mais on ne donne pas de l'argent à des SDF. » C'est pas que la droite et l'extrême droite, on a quelque chose à foutre des SDF, même blancs, mais c'est parce qu'ils sont blancs qu'on peut mobiliser leur situation dans un contre-discours à visée raciste contre des personnes qui sont dans la même situation, qui n'ont pas de domicile, qui vivent dans des tentes dehors, et qui sont migrants et qui sont noirs, en disant de la mise en compétition, au lieu de parler de « Ah ben, il y a plein de logements vides, il y en aurait assez et pour les personnes migrantes, et les SDF qui sont de nationalité française, et pour tout le monde. » Mais la question est de savoir, c'est « Ah, on les aide pas, on aide les migrants, alors que l'extrême droite est connue, et la droite pour avoir des discours extrêmement libéraux et de droite, de « Ah oui, les gens, s'ils sont SDF, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé, c'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils sont des alcooliques, et c'est qu'ils veulent pas s'en sortir, et que c'est des feignants, etc. » Donc c'est pour ça que ça n'empêche pas ceci, qu'ils soient blancs ou pas. Ça n'empêche pas que même s'ils soient pauvres, ils peuvent rester racistes. Hein. Mais être pauvre, ça n'a jamais été une punition au racisme. C'est-à-dire que là, l'autre discours aussi qui n'a rien à voir, ils sont blancs, ils sont pauvres, ils sont SDF et ils sont racistes, comme si être pauvre, c'est une punition au racisme. Donc si être pauvre, c'est une punition au racisme, on devrait être débarrassé normalement de tous les bourgeois, les capitalistes, de tous les présidents et ministres qu'on a eus, dont leur racisme à eux a un impact numéraire sur les vies des gens qui vivent en Hexagone, mais sur des vies en utilisant l'impérialisme de tous les gens qui vivent dans des pays d'Afrique subsaharienne et de la Caraïbe. Donc penser ça, c'est vraiment mettre à l'abri les blancs bourgeois et se focaliser sur des gens qui sont certes racistes, mais que leur racisme, techniquement, ils n'ont pas de pouvoir, en fait. C'est-à-dire que, frère, tu veux pas mon argent parce que je suis noire, t'es toujours par terre. Tu vois, t'es toujours par terre. Donc voilà. Donc, essayer de leur mettre un pouvoir politique alors que techniquement, la plupart d'entre eux, ils peuvent même pas voter parce qu'ils n'ont pas de domicile et parce qu'en France, quand on n'a pas de domicile, pas de carte de masse, c'est impossible. Ils sont destitués de droits civiques parce qu'ils sont pauvres. Ça mène pas à grand chose. Alors que d'autres personnes qui ont normalement un droit de vote comme tout un chacun, mais comme ils connaissent quelqu'un qui sont millionnaires, peuvent avoir des décisions sur la vie de millions de gens, des politiques internationales, ça, c'est très intéressant d'en parler, et ça, c'est pour eux s'il faut mobiliser des concepts, même de manière erronée, white privilege, rich privilege, tout privilège, Rolex privilège, c'est sur eux qu'il faudrait faire ça. Donc voilà, donc en conclusion, à la question classe, supérieure à la race, etc., comme beaucoup de choses dans la vie, parce que les êtres humains, c'est compliqué, ce n'est pas une réponse compliquée, ce n'est pas une réponse simple, pardon, c'est une réponse plus complexe. La race et le racisme, la suprématie blanche et le capitalisme sont deux systèmes qui s'articulent pour produire des choses en fonction des situations, mais ce sont deux systèmes, et comme le patriarcat, extrêmement structurants au niveau individuel, au niveau des relations entre personnes, mais au niveau macro, que ce soit du pays, des rapports entre les gens, qui fait que ça produit les positionnements dans l'échelle sociale, mais les positionnements aussi sur le degré d'humanité que le capitalisme et le racisme ont décidé de dire, que la vie de un tel ou X, ça vaut moins que d'autres, que la vie de personnes pauvres en prison, ben ça vaut moins que celle des électeurs de Macron, etc. Et utiliser des concepts politiques pour produire des discours profondément réactionnaires et de droite tels que ah ben c'est parce que s'ils ont pas su utiliser leur privilège blanc, ben on peut rien pour eux parce qu'ils sont SDF. Ça fait du bien ni à eux, ni à personne, et ni au progrès de l'humanité et de la justice sociale. Au contraire.
Selon la Commission européenne, la moitié des paiements en liquide se sont faits en euros dans les pays concernés, et les caissières ont fait face avec sérénité. Nathalie Moisan et Patrick Dachmecker.
L'affluence d'un samedi après-midi au supermarché. Virginie est l'une des 40 caissières à prendre son poste. Pour elle aussi, c'est une journée test.
Si on se sent pressé, il faut se dépêcher, il faut bien rendre la monnaie, il faut bien faire le décompte. Sinon, c'est un peu mieux comme ça.
C'est la plus facile.
Un petit peu, par rapport au rendu monnaie. Je vous remercie, monsieur. Au revoir.
C'est un extrait de Lynn Manna. C'était Journal de France 2 sur le premier jour de l'euro sur l'archive, et comme il parlait des caissières, j'ai trouvé ça important, surtout quand elle parle et qu'elle, je sais pas, à la fin si vous avez remarqué, elle répond à la caméra et en même temps juste après elle switch pour répondre à un client, parce que même en répondant à la caméra elle continue son travail comme caissière, et je trouvais ça intéressant pour parler du what the F concept, emotional labor. Alors emotional labor qui est très utilisé maintenant pour plein de trucs là. C'est un concept qui a été théorisé par la sociologue Arlie Hochschild dans les années 80, 81, 82. Enfin, pas... Attendez, il faut que je regarde. 83. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Managed Earth. Et c'est un livre, quand elle a son concept, il est basé sur une étude qu'elle fait sur les employés qui sont majoritairement féminins de l'industrie des services. Et pour elle montre comment les employés doivent contrôler leurs émotions ou même les supprimer et feindre dans le cadre du travail des émotions positives, de l'amicalité, de la joie, etc. Donc c'est vraiment sur les industries du service, caissière, nounou, service à la personne, etc. Donc il y a deux facteurs très importants, il y a une forme profonde et une forme superficielle. La forme profonde, c'est quand on, par exemple, t'arrives au travail, c'est passé quelque chose, tu te sens triste, mais il faut juste couper tes émotions et être une autre personne. Et la forme superficielle, c'est juste arborer un visage neutre, neutre positive tout le temps. Donc c'est arborer les émotions, mais vraiment les émotions, pas le comportement, les émotions qui sont acceptées et attendues du poste que tu as. Donc on voit que c'est extrêmement différent, que dans certains postes, par exemple les postes, si on travaille à l'usine ou si on travaille derrière un ordinateur, etc., où ben tu peux bouder devant ton ordinateur, tu fais ton travail, peut-être on va faire des remarques, tes collègues font oh mon Dieu tu boudes aujourd'hui, mais c'est pas compris dans le fait que tu fasses bien ou pas ton travail, que tu souris ou que tu souris pas. Donc C'est cette théorie, elle est basée sur ça, sur comment le capitalisme et la gestion managériale du capitalisme et du cadre du travail crée ce travail, ça s'appelle le travail émotionnel, emotional labor, dans le fait de produire des émotions fausses ou des comportements pour vendre un service qui sont attendus dans la fiche de poste, mais qui ne sont pas rémunérés. Donc, qui ne sont pas juste des choses techniques, on va dire. Donc, effectivement, après, cette théorie, elle est reprise, réadaptée, surtout dans les théories féministes, dans les relations, pour comprendre les relations hétérosexuelles, sur ce qu'on attend dans les femmes, dans le cadre du patriarcat et des relations hétérosexuelles, sur ça, dans des théories féministes, sur ça, mais elle n'est pas étendue de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de emotional labor, c'est-à-dire que on s'inspire pour travailler, pour parler par exemple de la charge mentale, donc qui n'est pas exactement la même chose. Donc après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les dérives qu'on peut voir sur emotional labor par-ci, par-ça, par-là, quand on parle de ses amis, sa famille, surtout de ses amis. Surtout dans les relations amicales, etc. Donc là, ça devient une dérive qui est très souvent de mots qu'on enlève de leur concept, de pourquoi ils ont été conceptualisés, qui étaient vraiment extrêmement révolutionnaires, comme le terme self-care, par exemple, qui était vraiment quelque chose qui était basé sur une pratique anticapitaliste révolutionnaire. Ben là, emotional labor, qui est un concept qui est fait pour comprendre un des outils extrêmement forts du capitalisme, surtout dans le cadre des travailleuses et des travailleuses précaires, parce que emotional labor, on sait très bien que les managers des grandes entreprises, on peut le voir dans les séries, dans machin, ils sont fâchés, ils crient sur tout le monde, personne leur en veut, oh, aujourd'hui c'est pas leur bonjour, etc. Et personne leur demande ni de sourire, bien au contraire, ni d'être gentil, bien au contraire, plus t'es méchant, plus tu parles mal, plus tu souris jamais, plus t'es un bon manager, t'es sharp, t'es un requin, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment pour comprendre ça, la condition d'une partie de la classe travailleuse et des femmes dans ces emplois où ce sont les femmes, où on leur demande de produire ce travail émotionnel. Donc cet outil conceptuel, de compréhension conceptuelle de comment le domaine, l'expansion du domaine du capitalisme, que ce soit sur le corps, sur les êtres, sur la psyché, avance dans les années, ça c'est son étude, elle porte dans la fin des années 70, et son livre sort en 83, mais après on voit l'avancement encore plus loin dans les 2000, maintenant on est en 2020, où on voit la notation, ça vient de tout ça, et dans une dérive de, oui, emotional labor par rapport à ses amis. Alors que là, on mobilise un concept politique extrêmement spécifique pour ce qui relève de notre capacité individuel à juste pouvoir dire non. Et ensuite, on peut parler de cette capacité individuelle qui peut être à dire non, qui peut être au vu de quand on est une fille, on est socialisé à toujours dire oui, à toujours être là pour les gens, à machin, etc., à toujours être sympathique et tout, ou à apprendre à mettre des limites et à faire respecter ses limites. Mais cette question, c'est pas la même question que l'emotional labor. Emotional labor, c'est en fait que tes conditions matérielles d'existence, c'est-à-dire le fait d'avoir un salaire, que ce salaire te permette de payer un loyer, que ce salaire te permette de payer des soins de santé, que te permette de payer une assurance, d'être couvert, une retraite, soit lié au fait que tu puisses produire, faire semblant de produire des émotions. Ce qui n'est pas la même chose qu'avec ses amis. Et effectivement, perdre des amis, ben ça fait perdre des choses, ça fait perdre des ressources, etc. Mais ce n'est pas la même chose dans un système capitaliste où a été organisée la dépendance au salariat, la dépendance au travail salarié pour vivre, que qu'on parle de emotional labor, parce que j'ai une amie, tout le temps elle se plaint, elle m'appelle tout le temps pour résoudre ses problèmes, mais elle me demande jamais comment moi je vais. Et la question là, c'est pas du question d'émotion là-bas, parce que votre condition matérielle d'existence ne dépend pas de son ami. Ce qui dépend de votre capacité à dire oui ou non, c'est si vous pouvez, si vous êtes dans un état mental pour le dire, mais aussi si qu'est-ce que vous avez pensé de vous-même. Parce que moi, je pense que la plupart du temps, quand les gens ne veulent pas dire non à quelque chose, c'est pas c'est, on pense c'est la peur que la personne va nous en vouloir, machin, etc. Mais je pense que c'est plus la peur qu'on a nous-mêmes de nous en vouloir, de penser qu'on est une mauvaise personne, qu'on aurait dû dire ça, etc. Et voilà. Et aussi d'admettre que parfois il y a des gens, on est amis, mais on veut pas vraiment être amis avec eux, et que on a le droit de dire, ben moi le genre d'amitié que je veux, c'est que si quelqu'un m'appelle tout le temps pour me rapporter ses problèmes, je veux que je puisse appeler tout le temps cette personne pour raconter mes problèmes aussi, ou je veux que une personne me demande si j'ai des problèmes. Donc on peut très bien on peut très bien aussi décider ça. Donc ça, c'est sûr, c'est facile à dire comme ça, mais c'est pas facile à faire quand, par exemple, on a les gens, ils vivent plein de trucs dans leur vie qui fait qu'ils ont une estime de soi beaucoup moins forte, qu'ils ont du mal à exprimer ce qu'ils veulent, qu'ils savent pas comment dire non, qu'ils sont plus fragilisés, qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin de beaucoup plus de support parce qu'ils sont fragilisés socialement, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter des relations plutôt bancales pour ne serait-ce avoir des relations. Mais tout ça, ce n'est pas la même chose que emotional labor. Donc c'est pour ça que c'était, que je trouvais que c'était important de le mettre dans cette perspective, que mobiliser des concepts politiques qui sont faits dans un cadre, ça les dépolitise et ça résout pas le problème de fond que peut être le fait que l'amitié est ancré dans un système patriarcal, capitaliste, raciste, et qu'il y a des dynamiques qui effectivement traversent nos relations, mais que justement ces dynamiques qui traversent nos relations peuvent être vues bien sûr au niveau systémique, mais on n'a pas besoin de mobiliser et de dépolitiser, dévoyer et cannibaliser certains concepts extrêmement utiles pour les luttes, pour certaines luttes, qu'elles soient anticapitalistes, sur les questions de la race, sur les questions du genre, pour en faire des outils mi-psychologiques, mi-lifestyle, mi-coach de vie sur nos problèmes individuels avec nos amis, notre famille, etc. Et voilà. Mais on peut très bien parler du fait que comment faire pour que la thérapie, l'accompagnement psychologique soit accessible à tous. La réponse, abolir le capitalisme.
Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Lionel Jospin lancera dès cet après-midi un comité national chargé de suivre les travaux d'adaptation de tous les systèmes électroniques du pays. Une adaptation qui concerne...
Bon, on n'a pas vécu le bug de l'an 2000, comme disait comme on avait eu peur en 1999. On va arriver en 2020, donc fin de décade. Je vous présente mes vœux pour 2020. Donc, qu'est-ce que je vous souhaite à titre individuel? Je sais pas, parce que je vous connais pas tous, mais j'espère que du bonheur, de plein, je sais pas, de la prospérité, de manière pas genre en cannibalisant les ressources des autres, plein de choses bien, de l'amour. Et à titre collectif, je nous souhaite, à titre collectif, pour les Noirs en France, les Noirs partout, je nous souhaite de la beauté, des luttes gagnées, la victoire, plus de connaissances, de partage, de communauté, et que on ressasse pas les mêmes débats qui ne mènent à rien en 2020, qu'on arrête de répondre à des faux profils Twitter créés juste pour l'occasion sur les mêmes sujets, qui créent des gens chiens de garde, parce que c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent un sujet, vous avez 100 followers et vous voulez un peu de buzz, ben vous lancez les mêmes sujets, vous dites un truc raciste, misogynoir, ou vous faites un faux profil ou un truc machin, et après vous faites hype. Et j'espère que bon, on va arrêter d'essayer de refuter, de prouver aux autres qu'ils ont tort de penser X, Y, Z sur nous, ou qu'ils ont raison de penser X, Y, Z sur nous. On va essayer de, on va arrêter de faire ça, et qu'on va se concentrer sur qu'est-ce qu'on a à gagner pour nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on veut gagner. Ce serait bien, ce serait vraiment bien ça. Donc, je vous souhaite tout ça, je nous souhaite tout ça, et on verra bien, et pour l'année à venir et toutes les autres à venir, et énormément de beauté. C'est important, la beauté. On va se quitter avec un extrait du texte de Joao qui est sorti le 23 décembre, aujourd'hui, date d'enregistrement de ce podcast, sur le panafricanisme et pourquoi les Antillais devraient être concernés. Petite parenthèse, il parle d'Antillais guadeloupéen martiniquais parce que je pense qu'il n'y a que en France qu'il y a des gens qui essayent de dire que les Haïtiens sont Antillais. Les Haïtiens ne sont pas Antillais, les Haïtiens sont caribéens, les Haïtiens sont Haïtiens. Mais les Antilles, c'est une dénomination géographique, géopolitique qui marque un territoire donné qui est dans la Caraïbe, mais aussi le rattachement soit à la France, soit aux Pays-Bas. Donc voilà, donc Haïti n'étant pas dedans, Haïti faisait, on disait la perle des Antilles d'Haïti quand elle était en colonisation, et elle s'appelait pas Haïti, elle s'appelait Saint-Domingue. Mais depuis qu'Haïti est Haïti, elle n'est ni perle ni des Antilles, et dans la Caraïbe. Donc voilà, donc c'est fin de la parenthèse. Donc ce sera je vais lire un extrait de ce texte que vous pouvez trouver sur son blog et que je vous invite à lire. Et on va finir avec un morceau du titre « Accident » du chanteur haïtien La Rose. Donc pour les créolophones, les haïtiens nous créolophones, et surtout pour ceux qui ont grandi dans une famille haïtienne, je suis sûre que vous reconnaîtrez ce titre. Et pour les autres, le son, il est tellement bon que même si vous ne comprenez pas les paroles, vous allez voir, c'est bon. À l'année prochaine, et je vous dis à très bientôt. Avant de proposer des réponses adaptées aux spécificités de chacun de ces deux discours dont la disqualification commune du panafricanisme n'empêche pas des objectifs fondamentalement différents, voire antagonistes, je veux m'arrêter sur une croyance qu'ils ont en commun. Les panafricanistes seraient fondamentalement des racialistes qui vomissent le métissage des peuples caribéens. Pour ma part, je considère au contraire que c'est précisément faire l'éloge du dit métissage, ou plus modestement le considérer comme une caractéristique déterminante qui finalement revient à faire preuve de racialisme. Dire que certaines sociétés sont métissées revient implicitement à postuler qu'ailleurs il y aurait une pureté. Il faut s'interroger sur les raisons de la célébration du mélange dans le contexte caribéen, quand il s'agit là d'un trait commun à un vaste ensemble de peuples. Simplement, ce sont les conditions ayant produit le mélange qui varient. Dans d'autres cas, c'est la colonisation et l'esclavage. Dans d'autres, ils sont résultat de certaines formes de nomadisme, de migration massive et sont moins marqués par la violence. Certes, toujours est-il, le mélange est partout, ou presque. En Afrique aussi, en Europe aussi, l'insistance sur le métissage dans le contexte caribéen, malgré sa prétention à se situer en dehors d'une pensée de la race, est au contraire profondément enracinée dans une lecture raciale du monde. Si on ne passe pas 1000 ans à disserter sur le métissage des peuples européens, eux dont la longue histoire de conquête et de guerre interne à l'Europe a produit des déplacements de population, des exterminations, des transformations culturelles, c'est parce qu'au fond, on considère que ça se passe entre blancs. Idem pour l'Afrique, ça se passe entre noirs. Pour la Caraïbe, cela se passe entre noirs, blancs, indiens, autochtones. Dès lors, cela devient du métissage, du mélange. Finalement, l'insistance sur le métissage de l'espace caribéen est une manière d'exceptionnaliser ce qui, sans être tout à fait universel, est tout de même très largement répandu. Et ce processus d'exceptionnalisation qu'il faut questionner. À quoi et surtout à qui sert-il? Contre qui? Je crois que la réalité irréfutable de la diversité culturelle en Caraïbe n'empêche pas de pointer du doigt son instrumentalisation politique. À quelle fin? Neutraliser les revendications afro-descendantes quant à la distribution inégale des richesses à notre désavantage et nier la persistance de la négrophobie. Même dans nos territoires à majorité afro, même lorsqu'on répète à tout va que le mélange est une chose magnifique, en faire la critique ne relève ni du racialisme ni d'une nostalgie africaine déconnectée, c'est garder un esprit critique sur la fonction politique de certains discours dont on souhaite postuler l'évidence et la neutralité alors qu'il n'en est rien. Extrait du texte de Joao Gabriel, en quoi le panafricanisme pourrait-il nous concerner, nous, les Antillais ? Allô, Lembe, avec regret, ma fille, bonsoir. Au cas où est à braler, mes amis me contrarier, m'impliquer dans un accident. Des
Si nou e map chante, pa jam kompran, map jam bliye li.